Hugo Placet, bonjour.
Bonjour.
Dans La Chine, un acteur responsable, révisionniste ou réformiste, vous faites le point sur l'évolution des rapports entre la Chine populaire et les Nations Unies. Revenons tout d'abord sur votre titre. Il y a tout d'abord ce concept d'acteur responsable et vous montrez dans votre livre comment la Chine, après avoir boudé le Conseil de sécurité de l'ONU, s'est investie au sein des Nations Unies. Et l'un des axes de cette montée en puissance, c'est une présence de plus en plus importante dans les opérations de maintien de la paix.
Absolument. En fait, je veux déconstruire l'idée d'un tournant en fonction d'années et surtout le réveil chinois à partir de 2012. Pour moi, c'est une montée en puissance qui est progressive, qui a commencé à la fin des années 80, dans les années 90, qui s'est accrue à partir des années 2005. Et bien sûr, à partir de 2012-2013, il y a un investissement d'autant plus fort.
En quelques dates, on a les premiers observateurs, c'est en Namibie en 1989. 2013, c'est aussi une date importante, c'est l'opération de maintien de la paix au Mali. Et l'armée populaire chinoise envoie pour la première fois des troupes d'infanterie et non pas des troupes logistiques.
Oui, c'est
voilà,
ça.
C'est ça. On a quelques dates qui symbolisent cette montée en puissance. Alors, cette montée en puissance, elle est réelle, mais en même temps, ce que vous montrez dans votre livre, hein, c'est qu'elle participe du narratif chinois.
Oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que il y a bien sûr des effets de communication, des effets de narratif, des effets d'affichage, mais l'investissement chinois dans les opérations de maintien de la paix, il est réel. Et la Chine a compris que si un jour elle voulait devenir la première puissance mondiale, il fallait qu'elle assure et qu'elle garantisse les biens publics mondiaux et le maintien de la paix en fait partie.
La Chine, premier contributeur en termes de soldats de la paix. Quelle peut être la prochaine étape pour la Chine? Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est de décrocher le poste de patron du département des opérations de maintien de la paix?
Oui, alors ça c'est une crainte qui revient régulièrement en 2017 déjà, en 2020, et ça nous concerne particulièrement parce que depuis 1997, c'est en quelque sorte le précaré de la France. Après, on n'est pas obligé d'avoir la tête du département de maintien de la paix pour avoir une influence. La Chine est deuxième contributeur, avec 15% du budget des OMP. Et puis, elle a nommé aussi des généraux à la tête de certaines opérations au Sahara occidental, notamment. Et elle a aussi une influence grandissante aux Nations Unies, ailleurs, dans beaucoup d'organisations, et notamment le secrétariat adjoint aux affaires économiques et sociales, qui est tout aussi important.
Venons-en aux deux autres termes, concepts de votre titre, réformiste ou révisionniste. Alors, cette montée en puissance de la responsabilité de la Chine alimente, on va le dire, hein, de nombreuses interrogations. Le but est-il de changer l'ONU de l'intérieur, donc de réformer, ou bien d'utiliser le nouveau poids au sein de l'ONU pour imposer ses propres normes, ses propres intérêts ou valeurs? Qu'en est-il à l'issue de vos nombreux entretiens?
Les deux. Mais ce que j'appelle moi réformiste, c'est aussi à l'intérieur des Nations Unies de définir et de redéfinir les concepts en fonction des intérêts. Après, pour moi, une puissance révisionniste, c'est prêt, par exemple, de complètement réviser l'ordre international et d'aller contre les règles du droit international, avec notamment l'invasion de Taïwan. Voilà, on serait dans une puissance qui serait profondément révisionniste. Et la crainte, pour moi, elle est là plus qu'une réforme interne des Nations Unies qui est en train d'avoir lieu et qui, finalement, est l'œuvre de tous les États.
Vouloir remettre sur le devant de la scène la souveraineté des États, le respect de non-ingérence de la Charte des Nations Unies, de la part de la Chine, c'est du révisionnisme ou du réformisme ?
Pour moi, c'est plutôt du réformisme, mais c'est surtout une vision originale de la charte, et c'est ça qu'elle défend, c'est pas de vouloir changer, c'est ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut revenir à une vision traditionnelle de la souveraineté et de l'esprit de la charte des Nations Unies, dont on serait, nous, occidentaux, quelque part, plutôt les réformateurs.
Alors, l'autre interrogation de votre livre, et vous l'évoquiez en début d'interview, c'est de savoir si, comme on l'entend souvent, on doit imputer à Xi Jinping cette stratégie, et vous le disiez, hein, il faut déconstruire cette idée. Pourquoi ?
Je pense que c'est un biais qu'on a toujours en politique étrangère de penser qu'un leader seul, dans sa volonté de puissance, pourrait changer le cap du tout au tout d'une politique étrangère. Et c'est notamment un biais d'autant plus fort quand on s'intéresse à des régimes autoritaires. C'est le cas avec Xi Jinping, c'est le cas aussi avec Vladimir Poutine aujourd'hui. Et moi, j'essaye de m'intéresser au temps long et tout simplement prouver un continuum qui serait plutôt l'œuvre de montée en puissance économique, politique, et qui a aussi toute son importance, à mon sens.
Vous avez eu de nombreux entretiens parmi vos interlocuteurs. Quelle est finalement l'image majoritaire qui ressort de la Chine ?
J'ai eu des interlocuteurs du Parti communiste, aussi des dissidents chinois, des diplomates et des militaires, et aussi des chercheurs. Donc j'ai essayé de panacher quand même les perceptions. Pour être honnête, je pensais avoir beaucoup plus de représentants de la menace chinoise, parce que c'est ça qui ressortait de mes études académiques, de ma revue de littérature. Dans l'administration, en tout cas française, on a une vision plus modérée, même si on n'est pas fleur au fusil par rapport à l'acteur chinois, mais en tout cas une analyse beaucoup plus fine et beaucoup moins empreinte de culturalisme, qui était un peu ce pourquoi j'avais voulu faire ces entretiens, parce que je trouvais que voilà, on pensait toujours, il y avait toujours des référents très presque racialisants en fait derrière l'analyse chinoise, l'ombre chinoise sur l'Europe et l'idée que les Chinois étaient toujours dans le mensonge. Et oui, ça, c'est ce qu'on fait pour faire couler de l'encre et vendre des livres, mais dans l'administration, on travaille plus dur.
L'Assemblée générale de l'ONU est ouverte. Les premiers discours des chefs d'État et de gouvernement vont commencer mardi. Il y a quelques jours, il y a eu la publication du rapport sur les Ouïghours par le Conseil des droits de l'homme. Michel Bachelet l'a publié juste avant de terminer son mandat. Est-ce que ce rapport va être un des sujets de cette Assemblée générale de l'ONU ?
Sûrement informellement, hein, mais en tout cas la France, qui prend la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies au mois de septembre, n'apportera pas le sujet à l'agenda. Je pense que ce qui préoccupe plus le Conseil de sécurité, c'est ce qui se passe à Taïwan. Et notamment la France, qui a envoyé des sénateurs récemment. Mais voilà, ce sera bien sûr un point d'échauffement, mais pas officiellement et pas publié en externe.
Merci Hugo Placet.
Merci.